Language français. Date, 17 février 2021. Les monuments d'art et d'histoire du canton de Fribourg-Vie. Le district de la Broye, la ville des Edias 039. Estavayer-le-Lac. Société d'histoire de l'art en Suisse GSK Chassa. Les monuments d'art et d'histoire du canton de Fribourg-Vie, le district de la Broye, la ville des Edias 039. Estavayer-le-Lac. Daniel de Rémy. Estavayer-le-Lac, ville portuaire sur la rive sud du lac de Neuchâtel, dispose d'une enceinte bien conservée qui renferme un habitat construit diversifié, ordonné dans un urbanisme adapté à un relief tourmenté. Des recherches approfondies ont permis de reconstituer le contexte médiéval dans lequel s'est inséré le bâti ancien, tout en précisant les grandes étapes de développement de cette ville au fil des siècles. La reconstruction de l'église paroissiale, entre 1390 et 1525, est décrite avec précision. Son trésor et son mobilier exceptionnel sont mis en lumière. L'imposant monastère des Dominicaines, fondé en 1316, autorise une lecture diachronique qui permet de suivre l'évolution de cet ordre. Le château de Chenaux bénéficie entre 1432 et 1443 de l'apport architectural de briques du nord de l'Italie par la volonté d'un prince emblématique, Humbert le Bâtard de Savoie. Prix, 120.CHF00. Prix membre chat, 83.00550 francs suisses. Illustration, 550. Nombre de pages, 500. Séries, les monuments d'art et d'histoire de la Suisse. Lieu, Suisse Fribourg. Estavayer-le-Lac. Auteur, Daniel de Rémy. Langue, français. Numéro d'Edias 039. Article, KDS 0140FPRT. Année de parution, 5 novembre 2020. ISBN, 978-3037-97-655. Numéro de volume, 140. Maison d'Edias 039. Édition, Société d'Edias 039. Histoire de l'Edias 039. Art en Suisse. Chashop.gsk.ch/fr/les-monuments des arts et des histoires du canton de Fribourg-Vie-Estavayer-le-Lac.html.ch/library/book2.140. Préface de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse. Préface de la Société d'Histoire de l'Art en Suisse. Le sixième volume de la série Les monuments d'art et d'histoire du canton de Fribourg est dédié à la ville d'Estavayer-le-Lac. Daniel de Rémy met en lumière le développement complexe de cette agglomération portuaire sur la rive sud du lac de Neufchâtel. L'essor urbain et architectural de cette ville médiévale emblématique a pu être restitué et visualisé de manière exemplaire par l'étude approfondie des sources historiques confrontées aux études de l'archéologie du bâti. Le monastère des Dominicaines, fondé en 1316, l'église paroissiale Saint-Laurent, reconstruite entre 1390 et 1525, ou le château de Chenaux, avec son apport architectural italien en briques entre 1432 et 1443, sont décrits avec précision. Aux côtés de ces monuments phares, l'auteur précise la chronologie de nombreux bâtiments et l'histoire de leurs propriétaires. La richesse documentaire a de plus permis de dresser un catalogue important d'artistes et d'artisans qui ont façonné le patrimoine staviaquois. Le livre de Daniel de Rémy ne se distingue pas seulement par sa qualité scientifique mais aussi graphique, puisque le propos est étayé judicieusement par des plans, photographies et reconstitutions 3D. Pour les 140 ans de l'achat et le centenaire du lancement de l'Inventaire national des monuments d'art et d'histoire, l'édition 2020 sera implémentée pour la première fois directement dans MaOnline. Ainsi, les fondations sont posées pour réunir le contenu des monuments d'art et d'histoire de la Suisse dans cette base de données nationale de référence, au-delà des tomes et des séries cantonales. L'achat tient à exprimer toute sa gratitude à Daniel de Rémy pour son grand engagement. Il a été soutenu par la commission cantonale scientifique, présidée successivement par les professeurs Peter Kurman et Agostino Paravicini Bagliani. Monique Fontana, Paul Bisseger puis Jacques Bujard, chef de l'Office du Patrie, moines et de l'archéologie du canton de Neuchâtel, ont œuvré comme experts. L'achat tient à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au gouvernement du canton de Fribourg, représenté par la direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, dirigé par le conseiller d'État Jean-Pierre Siegen, et au chef du service des biens culturels Stanislas Ruck, qui ont suivi avec grand intérêt les travaux de recherche et fourni les moyens financiers nécessaires au projet de ce monument d'art et d'histoire fribourgeois. L'achat remercie particulièrement les institutions suivantes pour leur soutien substantiel à la présente édition, l'Office fédéral de la culture OFCI, la Commission fribourgeoise de répartition de la loterie romande Mahonline, la commune d'Estavayer-le-Lac, la paroisse Saint, Laurent d'Estavayer et la fondation Dr Jacques Boulotte en faveur de la jeunesse bourgeoisiale d'Estavayer-le-Lac qui ont contribué à la réussite de l'œuvre par leur appui financier généreux. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS a soutenu le pré-presse et la publication Open Access dans la base de données Mahonline. Nicole Pfister-Fetz, présidente de l'ACHA, présidente de la commission rédaction, Ferdinand Pajor, vice-directeur de l'ACHA, chef de projet Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse, préface du canton de Fribourg avant de gagner les rives du lac, lieu de détente estivale très prisé avec en vue la ligne apaisante du Jura neuchâtelois et vaudois, on descend les rues et venelles pittoresques de la ville ancienne, immersion dans le Moyen Âge ou en tout cas en des temps révolus. Pourquoi une telle impression de retour dans le passé? Le livre que vous avez entre les mains vous le fait découvrir. Celui-ci ne donne pas dans la nostalgie, tant s'en faut, mais il invite le chef-lieu du district de la Broye, entité communale maintenant très étendue, à fonder son développement futur en s'accrochant solidement à ses racines qu'il s'agit de soigner et de vivifier. Que les habitants et les habitantes d'Estavayer et du district de la Broye y trouvent un plaisir tout particulier à le feuilleter. Cet ouvrage montre que la main-d'œuvre transfrontalière est une réalité très ancienne. Au XVe siècle, les spectaculaires tours de briques du château de Chenaux sont construites par des Piémontais. Certes, ils font partie du duché de Savoie, le même espace politique qu'Estavayer, mais ils franchissent les Alpes, travaillent et s'en retournent chez eux, sans penduler car l'automobile n'existe pas. Derrière la fracture que l'on devine après le départ des Savoies en 1536, les contrées environnantes sujettes de Berne passées à la religion réformée intégrée plus tard au canton de Vaud et celles restées fidèles au culte catholique ayant trouvé le soutien de Fribourg, ville-état un peu éloignée, l'on se rend compte de l'étonnante solidarité de leurs habitants qui ont su travailler ensemble et vivre en paix. De part et d'autre de la petite glane, dont elles entretiennent les rives en commun, les villes de Payerne et Estavayer, après des relations houleuses lorsqu'elles étaient de même confession et sujettes du même souverain au Moyen Âge, cultivent des relations de bon voisinage. Pour rebâtir leur monastère à la fin du XVIIe siècle, les sœurs dominicaines n'hésitent pas à faire appel à l'architecte Jonas Favre, réputé en pays de Vaud, constructeur de temples en principauté de Neufchâtel. Le lac de Neufchâtel est en ces temps, là un trait d'union. Les planchers et les charpentes des maisons stavillacoises sont en sapin du Jura, leur façade se pare des ors de la belle pierre d'Autrive. Les Staviaquois boivent les vins de leur domaine neuchâtelois et du pied du Jura, les toits de leur maison se dotent des mêmes grandes lucarnes que celles du Landron ou de la Neuville. De nombreux artisans de Franche-Comté passent les crêtes du Jura, travaillent à Estavayer puis vont œuvrer en terre fribourgeoise, leur travail est apprécié. Ce livre met en lumière l'étonnante identité de cette région non seulement par l'étude de son patrimoine immobilier ancien, mais aussi par la mise en évidence des riches collections du musée régional, et ce sans faire d'ombre aux grenouilles naturalisées de notre enfance. Il se veut un encouragement à donner un nouvel élan à cette institution qui trouverait un très bel écrin dans une résidence d'Humbert le Bâtard remise en valeur. Cela serait un encouragement pour que le patrimoine mobilier archéologique, ethnologique et artistique de la Broye fribourgeoise reste dans la région, s'enrichisse et y soit mis en valeur comme il le mérite. Jean-Pierre Siguen, conseiller d'État, chef de l'instruction publique, de la culture et du sport, DIC, préface de l'auteur après trois volumes dédiés à la ville de Fribourg par Marcel Strub et Södermann Schopfer au district du Lac, cet opus, le sixième du canton de Fribourg, est consacré à la seule ville d'Estavayer-le-Lac, chef-lieu du district de la Broye. Le fil conducteur de cet ouvrage est un important dossier constitué par Marcel Grandjean, qui a passé de nombreuses années à étudier cette ville. Il en était le meilleur connaisseur. Cela m'a permis d'établir un plan de travail fondé sur l'exploitation des fonds d'archives incroyablement riches pour le Moyen Âge et l'Ancien Régime, interprété au gré des visites de pratiquement toutes les maisons de L intramuros. La méthode d'approche mise en œuvre est celle apprise de ce maître. J'ai travaillé seul, mais a étroitement collaboré avec Yvan André et Marc-Henri Jordan du recensement religieux qui ont dressé l'inventaire des objets conservés à l'église Saint-Laurent. Gilles Bourgarel, Christian Kundig, Philippe Cognier, Wilfried Trillon, du service archéologique de l'État, ont pratiqué de nombreuses analyses du bâti et documenté d'importantes fouilles en vieille ville. Les dendrochronologues du laboratoire Roman ont proposé de très nombreuses datations, essentielles dans l'analyse des bâtiments et surtout à la compréhension des jalons du développement de la ville. Olivier Fell et son équipe, Archéotexa, à de l'informatique, ont livré des relevés précis et des reconstitutions 3D spectaculaires. Enfin, ce livre est aussi celui d'Ivaï Gunman, photographe sensible et dessinateur précis, très majoritairement l'auteur des photographies et des plans, traités avec une belle unité et une grande lisibilité. Les images accrochent le lecteur et contribuent à rendre le texte intelligible. Je suis redevable à cet ami d'avoir mené au bout sa mission 2 ans après sa retraite et malgré des ennuis de santé surmontés avec un courage exemplaire. L'ouvrage compte 115 objets choisis dans l'optique de brosser un portrait synthétique de cette ville, ainsi que son évolution historique. Ce qui est traité dans le livre ne représente pourtant que la partie émergée de l'iceberg puisqu'environ 1350 fiches ont été constituées, non seulement sur les objets architecturaux, mais également sur le mobilier ou sur les artisans pratiquant les arts appliqués. En filigrane, le livre tente de faire découvrir ceux qui ont bâti Estavayer. J'ai commencé à étudier une sélection d'objets, mais j'ai rapidement compris que la substantifique moelle de chacun d'eux et surtout la mise en évidence de la ville médiévale ne pouvait se révéler qu'avec une étude globale et approfondie du tout, spécialement dans l'approche diachronique proposée. Seule cette longue approche a permis de dévoiler que cette ville au Moyen Âge était très différente de celle suggérée par une lecture hâtive du bâti de l'intramuros, induite par une interprétation abusive du plan cadastral de 1745-46. Celui-ci renseigne sur la ville du XVIIIe siècle, mettant à donner de fausses clés si on prétend y voir celle des XIVe-XVe siècles. Cette approche apporte également un éclairage plus complet sur la société de ces 2 siècles et met en lumière les interactions de ces diverses strates, suggérant une mise en perspective nouvelle à l'historiographie récente du Moyen Âge, trop exclusivement centrée sur les archives écrites produites par les classes dominantes d'alors, soit les institutions religieuses et les cours princières. Il est permis encore de souligner le processus évolutif, diachronique, qui explique la ville actuelle. Connaître c'est conserver. L'ignorance conduit souvent à d'irrémédiables destructions. Pendant ces 15 ans, les outils de travail ont radicalement changé avec le numérique. Eigenmann est passé du rapidographe à AutoCAD, nous avons pu opérer des couvertures photographiques bien plus complètes en abandonnant les supports papier et diapositives d'autrefois. Comment ce matériel sera-t-il ensuite conservé? C'est une question de loin pas résolue. Si je suis reconnaissant que l'on m'ait laissé achever cette longue démarche, je regrette que, dans l'immédiat, personne ne prenne la relève, laissant la majorité des districts du canton non encore couverts par un livre MA. C'est malheureux, nos sociétés planifient leur autodestruction induite par le changement climatique qu'elles provoquent, plongent dans l'amnésie avec le tout numérique en confiant leur mémoire à des supports volatiles et se coupent de leurs racines en ne finançant plus les recherches historiques de grande ampleur. Les soutiens, les contributions et les suggestions de collègues ont été nombreux. Qu'il me soit permis de remercier ici Madame Isabelle Chassot, conseillère d'État lors de mon engagement, dont on connaît l'attachement à son canton et qui avait perçu la nécessité de mon travail, Messieurs Claude Castella puis Stanislas Ruc, chef du service des biens culturels et leur adjoint, Aloïs Loper, les membres de la commission scientifique ad hoc cantonale, présidée par 2 anciens professeurs d'université, Peter Kurman d'abord, Agostino Paravicini Bagliani ensuite. Dans cette commission, Francis de Vevey, le régional de l'étape, m'a ouvert maintes portes et permis d'établir de riches liens avec les habitants d'Estavayer. J'ai usé 3 experts, Monique Fontana, Paul Bisseger et enfin Jacques Bujard qui m'a soufflé la date de construction de l'église Saint-Laurent. Je suis très reconnaissant à l'autorité communale d'avoir constamment soutenu mon travail, et à son administration de m'avoir accueilli et répondu de façon efficace à mes multiples sollicitations. Merci également aux archives de l'État pour m'avoir sorti des stères de documents. Impossible hélas de nommer ici toutes les personnes qui m'ont aidé, elles se reconnaîtront. Ma reconnaissance va encore à Ingrid Buty, conservatrice du musée d'Estavayer, aux sœurs dominicaines pour leur apport scientifique dans l'étude du monastère, leur indéfectible bienveillance ainsi que leurs prières, à la préfecture et à l'administration cantonale, aux nombreux particuliers cités dans cet ouvrage, qui ont fourni de la documentation ou de nouvelles pistes de recherche. On ne saurait oublier l'apport essentiel de l'éditeur, l'achat, par le soutien et l'engagement sans faille de son chef de projet MA, Ferdinand Pajor. Les relectures de nos brillantes collègues Brigitte Pradervant, de la commission de rédaction de l'achat, Nathalie de Sarzan et Isabelle Roland n'ont été que profitables au manuscrit. La forme finale du texte et l'accompagnement de la mise en page doivent beaucoup à l'engagement constant et efficace de la rédactrice de l'achat, Sabine Frey. Notre admiration va au typographiste Hans Christian Wadmann pour sa mise en page très réussie après avoir surmonté d'innombrables problèmes de compatibilité informatique. Merci aux aides de la dernière heure, Julie Wadmann, Sandra Huberly et Stéphanie Ram. Ce livre se veut à la fois hommage et encouragement à tous les propriétaires, tant privés que collectivités publiques. Ils ont contribué à la bonne fin de cet ouvrage en me laissant entrer dans l'intimité des édifices, dont ils œuvrent à la conservation et à la pérennité. Je désire dédicacer ce livre à deux révélateurs des beautés du monde, Marcel Grandjean, qui m'a appris l'essentiel dans mon métier passion, et Hermann Schopfer, soutien bienveillant, qui s'est éteint après le point final de cet ouvrage. J'y associe mon épouse Sylvie de Rémy Mosiman. Daniel de Rémy Bourguillon, 10 août 2020, quantième autrefois jour de fête à Estavayer. Introduction générale liminaire méthodologique méthode d'approche, la documentation disponible est la ville intramuros d'Estavayer-le-Lac, exceptionnellement préservée dans son ensemble, a fait l'objet d'une documentation poussée. Pratiquement toutes les maisons ont été visitées. Certaines ont bénéficié d'observations archéologiques approfondies dans le cadre de chantiers de rénovation qui ont mis au jour des structures anciennes ou des aménagements cachés. La dendrochronologie a également été déterminante pour poser des jalons chronologiques précis quant aux étapes d'agrandissement de l'ensemble étudié, qui n'a jamais eu à subir de grands incendies. Les archives de la ville ainsi que celles de l'État, tant à Turin, pour l'ancienne Savoie, qu'à Fribourg, pour l'ancien régime et l'époque cantonale, permettent une couverture documentaire exceptionnellement dense, surtout pour les périodes les plus anciennes. Ces sources sont complétées par les archives très abondantes du monastère des Dominicaines, sans cesse enrichies depuis 1317. Cette profusion de données constitue un grand enrichissement dans l'approche obligatoirement diachronique qu'il faut mettre en œuvre pour appréhender ce patrimoine construit maintes fois transformé ou réaffecté à de nouveaux usages. La documentation concernant chaque édifice est conservée au service des biens culturels de l'État de Fribourg. Elle est d'une aide précieuse pour les personnes en charge de la conservation de ce patrimoine, permettant d'orienter les restaurations futures en vue de sa mise en valeur. En outre, elle renseigne utilement le propriétaire, ainsi sensibilisé à la substance historique de son bien. Le parcellaire d'Estavayer et de son ancien territoire communal, bâti ou non, a ainsi fait l'objet de 1200 fiches réparties dans 68 dossiers, classées par rue et par leur numéro d'ordre. Le présent ouvrage n'a retenu, faute de place et dans le but de présenter la ville de manière synthétique, qu'une infime partie des objets étudiés. Comme il n'est pas possible de tout référencer précisément, nous renvoyons le lecteur à ces fiches dans la plupart des cas retenues. La longue succession des propriétaires de chaque bâtiment a pu être restituée en remontant au début du X siècle pour la plupart des cas, et même jusqu'au milieu du XIe siècle pour certains. Le document pivot ayant permis cette chronologie foncière est le plan cadastral levé en 1745-46 par le commissaire François Beauchoud, de Bossonance, bourgeois de Fribourg, sous les ordres de LL. et de Figue. 2,3. Celui-ci a consigné dans deux gros volumes d'extant la totalité des droits du souverain, reconnus par leur sujet Stavillacois, dispersés auparavant dans divers terriers du fait des co-seigneuries préexistantes. Le dépouillement de toutes ces reconnaissances établies tous les 20 à 30 ans a permis cette remontée dans le temps 3. Grâce à ces archives, des éléments de trame urbaine disparus, non représentés sur le plan, ont pu être mis en évidence. Le développement d'un quartier complet, comme celui de Lombardie, voire le faubourg de Chavannes, page 330-331, a même pu être retracé. Les droits de chaque co-seigneur étant exercés à l'origine non pas sur une répartition géographique par quartier, mais sur les personnes, les terriers fournissent une information très dispersée sur l'ensemble de la ville. La localisation précise de chaque parcelle ne peut se faire qu'avec l'analyse de la totalité de cette documentation. Du fait de certaines lacunes dans les sources écrites, la reconstitution de la topographie urbaine et la succession des propriétaires pour chaque quesal ne sont pas toujours aisées à établir. Il n'a pas été possible d'avoir un aperçu de la répartition de l'ensemble des droits fonciers à une date donnée, car les extantes n'ont jamais été élaborées simultanément par les trois cosigneurs. De plus, ces droits font souvent l'objet d'échanges, d'achats ou de ventes. Relativement aux périodes plus récentes, en aval du plan et de la reconnaissance Boschoud, le dépouillement des registres de notaires quatre tenus jusque dans les années 1830 a permis de faire le lien avec les cadastres incendies dressés dès 18185, les recensements cantonaux du siècle VI, ainsi que les plans cadastraux d'Henri Perrier en 18477 et de Nicolas Bise-Rémy en 1883 à 848. Source trop peu explorée, les actes notariés sont une mine de renseignements sur les fonctions et les utilisations du patrimoine construit. Nombre de transmissions de biens, comme plus généralement le tissu des relations et l'exercice du pouvoir au sein de la société staviacoise, ont trouvé un éclairage grâce au travail colossal mené par Hubert de Vevelhardy. Cet historien a établi les généalogies non seulement des Estavayer et neuf imposantes compilations en soi, mais également de toutes les familles bourgeoises d'Estavayer, consultant d'innombrables sources 10. La succession des propriétaires étant connue, il a été possible ensuite de localiser une grande masse d'informations, soit les décisions prises par la ville relativement à sa substance construite, consignées dans les manuaux du conseil ou dans les comptabilités, de même que toutes données de nature juridique ou fiscale trouvées dans les riches séries de parchemins conservés dans les divers dépôts d'archives. De nombreuses corrélations ont pu être établies avec l'observation du bâti. Les principales caractéristiques typologiques que présentent les arts appliqués mis en œuvre dans l'architecture civile, faute de place, ne peuvent faire ici l'objet d'une présentation synthétique. On les signale dans le cours de l'ouvrage, au gré des diverses descriptions consacrées aux objets les plus significatifs. Chaque attribution à un artiste ou artisan, même si ce dernier s'en tient dans ses activités à une modeste échelle locale, est indiqué en renvoyant le lecteur aux quelques 80 fiches biographiques qui ont été établies. 11. Convention au sujet de la rose des vents, l'orientation retenue. On a retenu l'orientation qui a été adoptée pendant plusieurs siècles dans les textes de reconnaissance, le nord se situe du côté de Grandcourt, le sud du côté d'Yverdon, l'est du côté de Fribourg ou des Alpes, l'ouest du côté du lac. Le nord géographique se trouve exactement dans la diagonale de ce système, entre l'ouest et le nord. Hormis les cartes générales qui respectent l'orientation habituelle, tous les plans, tant des édifices particuliers que des quartiers présentés en début de chaque chapitre, sont orientés avec le nord historique en haut. Tous les édifices étudiés dans cet ouvrage sont décrits selon ce parti, sauf la collégiale Saint-Laurent, pour laquelle l'orientation propre aux églises est maintenue.